Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Christine Robert avec Fabien Gosset, Alexandre James et Pascal Bresse à la technique et préparés par Geneviève Méric, Jeanne-Marie Roux, Mathilde Unger, Avril Ventura, Adèle Van Rett. Suite et suite ce jeudi d'une semaine sur le bac philo dans les nouveaux chemins de la connaissance, la quatrième du genre et la première à donner également la parole aux élèves. Car depuis lundi dernier, les nouveaux chemins de la connaissance planchent, pour vous, sur des sujets du bac, c'est-à-dire des questions de tous les jours. La politique doit-elle faire le bonheur des citoyens? Est-ce que toutes les cultures se valent? Peut-on dire que toutes les cultures se valent? Y a-t-il quelque chose que le langage ne puisse dire? Peut-on dire d'un désir qu'il est anormal? Et aujourd'hui, peut-on vouloir le bien sans le faire? Bonjour Isabelle Ledoux.
Bonjour,
bienvenue sur France Culture. C'est moi qui vous dis bienvenue et c'est vous qui m'accueillez puisque vous enseignez la philosophie au lycée Saint-Just de Lyon où nous nous trouvons aujourd'hui en compagnie de vous et de trois de vos élèves. Alors on va discuter ensemble de la question de savoir si l'on peut vouloir le bien sans le faire. On va tenter ensemble de construire un plan détaillé à l'intention des élèves, des futurs bacheliers à partir de cette question. Mais d'abord justement, on va donner la parole à trois de vos élèves, encadrés par Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël, et donc bonjour à Diane Buzéa, Pauline Pontier et Gaëtan Prieur-Drevon. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Donc on va essayer de voir ensemble, avant de donner la parole à votre professeur, comment vous, en tant que lycéen au mois de mars, donc de l'année terminale, comment vous réagiriez face à un tel sujet si vous tombiez au bac. Alors je sais que la notion de bien, puisque le sujet est « peut-on vouloir le bien sans le faire ?», vous n'avez pas encore étudié en profondeur, disons, la notion de bien qui est pourtant au programme en terminale. Mais c'est justement ça qui est intéressant, puisque vous avez quand même appris, là on est au mois de mars, donc vous avez appris à décortiquer, à analyser un sujet. Alors comment, si vous tombez sur ce sujet au bac, comment est-ce que vous procédez? Qu'est-ce que vous vous dites en premier, Gaëtan Prieur-Drevon?
Alors moi, spontanément, quand je vois quelque chose comme ça, ma première idée, c'est de réfléchir à ma propre position sur cette question et me dire, trouvons des arguments comme ça qui spontanément me viendraient à l'esprit sans réfléchir forcément à des auteurs philosophiques comme ça. Et puis ensuite, trouver une espèce d'antithèse et faire le même travail. Et ensuite, si jamais je vois que je commence à trouver dans mon bagage philosophique ce qu'il me faut pour répondre aux questions, je vais essayer d'accentuer tous ces points et d'essayer de trouver quelque chose qui fait que tous les petits arguments que j'aurais réussi à trouver ont un lien et me permettent d'arriver à finalement nuancer les termes du sujet. Donc par exemple, tout ce qui est sur le bien, finalement j'irai justement chercher la définition du bien et la modifier par rapport à ce que j'aurais fait en introduction. Et ensuite, par rapport à cette antithèse, parfois, ce n'est pas possible pour moi de trouver une antithèse exactement. Ce serait se contredire et puis ça n'aurait forcément aucun intérêt. Donc ensuite, pour moi, mon antithèse, c'est plutôt une nuance par rapport au second dire. Ah bah oui, spontanément, moi, je dirais que c'est possible de vouloir le bien sans le faire, mais que d'un autre côté. Et donc là, j'avancerai quelque chose de différent qui nuance ce propos et que je terminerai par ma conclusion.
Donc d'abord, vous partez de vos intuitions, ensuite vous essayez de les relier à des connaissances pour essayer de structurer une thèse et une antithèse. Est-ce que vous procéderiez de la même façon, Pauline Pontier?
Pas du tout.
Alors comment est-ce que vous feriez?
Moi, quand je vois une phrase comme ça, la première chose qui m'est venue, je vais réfléchir sur sur le sujet. Là, ce qui m'a interpellée, c'était le bien. Je me suis dit que tout dépendait en fait de la définition qu'on pouvait avoir du bien. Par exemple, moi, je vais penser que je vais faire quelque chose, je pense que c'est bien, mais quelqu'un d'autre va penser qu'il n'aura pas du tout le même concept que moi du bien, et il va penser que c'est mal. Et donc, je pense faire le bien, pour moi, c'est bien, mais pour quelqu'un d'autre, ça ne le sera pas. Donc
vous partez de votre expérience de ce qu'est le bien pour essayer ensuite d'en produire une définition, en fait, en premier lieu.
Voilà.
Et Diane Buzéa, comment est-ce que vous procédez ?
Alors moi, si je vois ce sujet, déjà en général, je pense à un exemple où j'essaie de trouver un cas qui correspondrait à cette interrogation. Et après, si je ne trouve pas, ou des fois il y en a tellement que je m'éloigne un peu du sujet, j'essaie de me rattacher aux notions qu'il y a dans le sujet qu'on a vu en cours. Et des fois, ça me permet de me recadrer dessus. Et là aussi, je me serais tout de suite interrogée sur l'opposition qu'il y a entre le début et la fin de la phrase. Pourquoi l'homme qui voulait faire le bien, finalement, il n'a pas réussi ou on l'a forcé à faire autre chose ?
Donc là, c'est intéressant parce que parmi vous trois, donc il y en a un qui partirait plutôt de ses intuitions, vous, Pauline Pontier, plutôt de chercher une définition du bien, et Diane Buzéa, plutôt, vous avez parlé d'un exemple qui vous viendrait à l'idée pour illustrer cette phrase. Isabelle Ledoux, est-ce que ces trois manières de procéder seraient toutes les trois légitimes pour commencer une dissertation et analyser un tel sujet ?
Oui, dans la mesure où elles procèdent d'une démarche personnelle. Une dissertation, c'est quand même un exercice de réflexion personnelle, personnel ne signifiant pas subjectif, évidemment. Mais c'est vrai que ce qui me paraît légitime dans ces trois approches du sujet, c'est l'effort pour construire une analyse et donc une problématisation.
C'est cette différence que vous exposez, que vous introduisez entre personnel et subjectif est une différence essentielle. C'est-à-dire que dans une dissertation, Isabelle Ledoux, les candidats, les bacheliers ne sont pas là pour raconter leur vie. Mais ils peuvent, le cas échéant, s'en inspirer, s'en servir et en faire éventuellement la matière d'un exemple. Il faut ici établir une nuance, non ?
Oui, tout à fait. D'où d'ailleurs le souci tout à fait légitime qui a été exprimé notamment par Gaëtan de la nuance, parce que il me semble que la règle d'or lorsqu'on est confronté à une question de dissertation, c'est de la prendre au sérieux. Ça a l'air d'être une lapalissade. Mais en fait, on peut être très vite tenté par une réponse qui a la fausse apparence de l'évidence. En l'occurrence, on pourrait très bien être tenté face à ce sujet de se dire « mais tout, dans la vie, tous les jours, tout le temps, on voit des gens qui cherchent à faire le bien et qui ne le font pas ». Et donc, on pourrait se focaliser, la tentation, à mon avis, serait de se focaliser sur la deuxième partie du sujet. Effectivement, le problème que pose la détermination du bien, sa définition, est-ce qu'il y a un concept universel du bien ? Est-ce qu'on peut fonder une morale universelle, etc. Quelles sont les causes ou les raisons qui peuvent interférer avec cette visée du bien et la faire échouer ? Mais il y a le « peut-on vouloir ?». Et prendre la question au sérieux, c'est aussi envisager que peut-être il n'est pas possible de vouloir le bien sans le faire.
Et prendre la question au sérieux, c'est même en amont de cela, ne négliger aucun des termes de cette question.
Absolument.
En venir à la construction, on le dit tous les jours, hein, donc répétons-nous, mais après tout, une bonne pédagogie impose aussi de se répéter bien souvent. La construction d'une problématique passe nécessairement par l'examen des termes du sujet. Et il ne faut pas se satisfaire, en somme, ici, de regarder le bien et le faire. Il y a aussi le vouloir le bien, qui n'est pas tout à fait la même chose. La possibilité qui viendra peut-être à un candidat d'inverser éventuellement les termes de la question, de savoir si on peut faire le bien sans le vouloir, ou je ne sais pas. Ou en tout cas, de construire une problématique viendra certainement d'une analyse précise des termes du sujet, Isabelle Ledoux.
À mon avis, là, le terme clé, bon, même si le terme, évidemment, la notion de bien est à construire, est à élaborer, c'est effectivement le verbe vouloir, parce que c'est une forme active. Et vouloir, ce n'est pas simplement avoir l'intention ou avoir la velléité de, c'est véritablement un acte. Donc, la question posée nous confronte à quelque chose d'assez paradoxal, à savoir une mobilisation de toutes nos forces pour tendre vers un but et qui, pourtant, serait entravée. Donc, à quel principe la volonté doit-elle obéir pour que, à la fois, il lui soit enjoint de viser le bien et qu'en même temps, cela ne s'accompagne pas d'effets ?
C'est ce que vous appelleriez la problématique ? Est-ce que vous pourriez...
Début problématique, parce qu'en fait, pour bien comprendre cette interrogation, il faut avoir à l'esprit, par exemple, que la volonté, ou ce n'est pas le désir. C'est-à-dire que autant le désir est subjectivement déterminé, est de nature affective, sensible, etc., autant la volonté a comme principe de commandement intrinsèque la raison. Elle est rationnellement déterminée. D'où le caractère particulièrement paradoxal de la question. Comment penser un principe de commandement de la volonté qui soit raisonnable et qui, simultanément ou successivement, mais suffisamment rapidement pour qu'il n'y ait pas d'effet, lui enjoigne à la fois de viser le bien et finalement de ne pas le faire, ou en tout cas de ne pas de suspendre ce mouvement de mobilisation de nos forces qui se produit lorsque nous voulons.
Et quand on a constitué ce problème, quand on a fabriqué une problématique, c'est-à-dire quand on a finalement un fil conducteur, quelque chose qui nous permet de construire une dissertation et d'aller d'un début à une fin, de partir d'un problème pour essayer d'y répondre en fin de dissertation, quand on obtient cela, est-ce que vous conseillez à vos élèves, je pose la question à tous les enseignants depuis qu'on a commencé cette semaine, est-ce que vous donnez à vos élèves le conseil d'annoncer leur plan dans l'introduction ou bien tout simplement de s'en tenir à cette question et de donner ensuite dans le corps de la dissertation le sentiment que chaque partie correspond véritablement à un point de vue très spécifique et qu'il est donc inutile d'annoncer dès l'introduction?
À mon avis, ça dépend du type de problématique élaborée. En tout cas, ce qu'il ne faut certainement pas faire, c'est substituer l'annonce du plan à la problématique. Il ne faut pas que l'annonce du plan se substitue à l'effort de problématisation. Parfois, la problématique se décompose en deux, trois questions tellement distinctes et claires que, à la limite, on peut faire l'économie de l'annonce du plan. Disons que annoncer le plan après une bonne problématique, ça balise quand même bien le chemin, ça peut être utile.
Alors, sans leur faire un reproche, puisqu'ils sont, ils sont formidables, vos trois élèves, là, ceux qu'on a entendus là, depuis le début de cette émission, est-ce qu'il n'y a pas entre l'un qui parle de ce qui lui vient spontanément et des références et de l'antithèse possible, l'autre qui parle d'une définition du bien, la troisième qui se demande quels exemples elle utiliserait, est-ce que finalement il ne manque pas dans ses initiatives, dans ses points de départ, le souci de construire justement cette problématique? Est-ce que ça n'est pas un souci qu'on doit garder présent à l'esprit dès le début, en fait, d'emblée?
Peut-être le souci d'être attentif à l'intitulé, un peu plus. C'est vrai qu'il y a eu une focalisation sur le terme de bien qui est tout à fait compréhensible et je pense que la majorité des candidats au baccalauréat auraient réagi de cette façon. Mais bon, l'épreuve dure 4 heures. Hein. Ils ont quand même le temps. En 2 minutes, ils ont eu le mérite de réagir in abrupto. Bon, je pense qu'avec un peu plus de réflexion, cette problématisation, ils l'auraient amorcée à partir d'une analyse de l'intitulé.
Allons Isabelle Ledoux dans la construction donc de cette dissertation. On a vu donc la ligne problématique, la difficulté finalement, la difficulté de penser simultanément cette façon qu'aurait la volonté d'être ordonnée vers le bien à tous égards et en même temps d'être dans l'incapacité d'y parvenir ou d'être gêné dans cette ambition. Quelle première partie choisiriez-vous? À quelle hypothèse choisissez-vous de donner sa chance au début d'une telle dissertation?
Il me semble que la première... Bon, je tiens quand même à préciser que le traitement que je propose n'est qu'un exemple parmi des tas d'autres possibles. Hein.
C'est important de le rappeler.
Il y a quantité de façons de traiter un sujet. Ce n'est pas un modèle que je prétends présenter comme cela. Mais il me semble qu'on pourrait déjà analyser une ou plusieurs formes d'impuissance du vouloir, s'interroger sur ce que pourrait être ou quelles seraient les figures de l'impuissance du vouloir. Qu'est-ce qui pourrait les provoquer? Quelles en seraient les causes?
Par exemple, allons-y. Hein.
Alors, moi, j'ai pensé à une œuvre littéraire parce qu'il me semble que s'y trouvent présents deux exemples assez emblématiques de cette impuissance, à savoir L'Idiot de Dostoïevski, dans l'œuvre dans laquelle se trouvent deux personnages centraux, L'Idiot lui-même, à savoir le prince Mishkin, et puis Rogojine, un marchand peu honnête, peu scrupuleux, et il me semble que chacun à leur manière, bien que ce soit deux figures totalement antithétiques, représente une forme d'impuissance du vouloir. Alors le prince Mishkin, parce qu'il est très jeune, très inexpérimenté, très innocent, et finalement, on ne peut pas dire de sa part qu'il n'a pas de clairvoyance quant au bien. Au contraire, c'est presque parce qu'il le saisit avec beaucoup d'évidence et beaucoup de simplicité qu'il va tout bouleverser autour de lui et qu'il va provoquer des catastrophes. Et Rogojin, en revanche, c'est quelqu'un qui ploie sous l'habitude d'une vie débauchée, qui est impuissant face à ses propres passions. Donc, on a là deux figures antithétiques. Chacun, à sa manière, a une sorte de nostalgie du bien ou de visée du bien. Je parle de nostalgie du bien pour Rogojin, parce que, bon, elle est tout de même un peu sporadique chez lui. Mais finalement, les deux échouent à l'effectuer, à le produire, et provoquent des catastrophes.
Est-ce qu'un tel exemple, Isabelle Ledoux, ne permet pas d'introduire une nuance dans l'intitulé du sujet, ou en tout cas d'établir une distinction qui serait... Un, ceux qui veulent le bien sans le faire, et deux, ceux qui font le mal en voulant le bien, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vouloir le bien sans le faire, bon, renverrait à une forme d'impuissance. Faire le mal en voulant le bien renvoie peut-être à autre chose, qu'en pensez-vous ?
Ça me fait penser spontanément à la célèbre formule de Socrate, « Nul n'est méchant volontairement ».
C'est la formule du Ménon.
Oui, absolument. Alors, nul n'est méchant volontairement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mal, comme pure négativité, ne peut pas être objet de la volonté. C'est-à-dire qu'il est difficile d'en donner une définition autre que négation du bien. Ça veut dire aussi que même lorsque je veux quelque chose dont je sais pertinemment que cela aura des conséquences néfastes ou destructrices pour autrui, c'est parce que de quelque manière que ce soit, je me le représente comme un bien, au moins pour moi. Et j'oublie, ce faisant un peu vite, que ce qui n'est bien que pour moi ne saurait être un bien véritable. Bon, alors évidemment, Rogojin est tout à fait dans cette configuration-là, c'est-à-dire que il cherche à réaliser un bien qu'il conçoit mal. Il est incapable de lutter contre l'habitude d'une vie de débauche. Il aime une femme à laquelle il n'est pas capable de rendre sa liberté, bon, alors même qu'il la rend malheureuse. Bon, je laisserai les élèves découvrir le roman. Je ne suis pas persuadée qu'ils l'ont lu, mais il est passionnant.
C'est magnifique, hein, il faut le dire. Hein. L'idiot, oui, c'est un chef-d'œuvre.
Au niveau de la construction, oui, c'est vraiment...
Mais est-ce que dans le... ce qu'on a appelé l'intellectualisme socratique du « nul n'est méchant volontairement », au sens où il suffirait d'avoir la connaissance du bien, en somme, pour bien agir, et que celui qui est méchant l'est au fond malgré lui, parce qu'il se méprend, parce qu'il a, comme dirait Spinoza, une représentation peut-être inadéquate des choses, est-ce que cet optimisme-là, qui consiste à faire reposer la possibilité de faire le bien sur la connaissance du bien, n'est pas constamment démenti par l'histoire? Et est-ce que d'ailleurs, en posant une telle question, on n'est pas déjà dans une autre partie que la première, Isabelle Ledoux?
Disons en tout cas que on peut se tourner du côté du sujet du vouloir, c'est-à-dire se demander si lorsque nous nous représentons le bien et lorsque nous nous fourvoyons en nous représentant inadéquatement le bien, ce n'est pas nous-mêmes au fond que nous méconnaissons. Parce que bon, il y a le concept du bien, il y a l'idée qu'il faut déterminer des moyens adéquats à cette fin, mais il y a aussi l'idée que peut-être que je ne suis pas en mesure de le faire si je ne me comprends pas moi-même, si je ne saisis pas moi-même ma propre nature, et si je ne maîtrise pas les rapports de causalité qui sont intrinsèques à une situation. Finalement, c'est ce qui arrive au prince Mishkin. Lui, le bien, il se le représente assez facilement. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il en a une idée inadéquate. En revanche, ce qui lui pose difficulté, c'est son application à une situation concrète particulière. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appellerait l'exercice du jugement ou une forme de prudence, une forme d'exercice qui consiste à savoir analyser une situation pour agir en s'ajustant à elle.
Est-ce que dans la représentation qu'on se donne du bien, est-ce que le fait de se représenter le bien fonctionnait en bonne méthode socratique, par exemple dans la République de Platon? On discute de la justice au début, hein, livre premier, enfin on discute de la justice pendant toute la République, mais oui. On commence, on parle de la justice, du juste, de l'injuste, Socrate et Trasimaque qui s'engueulent, enfin tout ça, enfin Trasimaque qui engueule Socrate plutôt, puisqu'évidemment les mauvaises manières sont du côté des sophistes chez Platon. Et le livre premier s'achève sur le paradoxe que on parle de la justice sans avoir éprouvé la nécessité de la définir. Ce qui est au fond un contresens, qui est mettre la charrue avant les bœufs. Est-ce qu'il ne faudrait pas se heurter à la difficulté de définir le bien pour savoir si l'on peut le vouloir, si l'on peut le faire en le voulant, etc. Et également prendre le risque de dire que quand on définit le bien, on donne, un peu comme le Ménon dont vous parliez tout à l'heure, qui donne un essaim de définition de la vertu, on donne une définition qui en elle-même est une définition limitée, éventuellement dogmatique, dans la mesure où telle représentation du bien pour vous n'est pas la même pour moi ou pour ceux d'entre nous qui sont à cette table ou dans cette salle, hein, Isabelle Ledoux.
Il y a une définition tout à fait classique du bien. Bon, le bien, c'est quand même la valeur morale par excellence. Donc, on peut définir le bien comme ce qui constitue en soi et par soi une fin. Bon, donc ce qui est jugé digne d'être poursuivi. À partir de là, maintenant, c'est vrai que son évaluation n'est pas, enfin, peut varier. Le bien n'est pas l'utile. Le bien n'est pas l'agréable, le bien n'est pas le profitable.
Il est facile de dire ce qu'il n'est pas.
Il est plus facile de dire ce qu'il n'est pas que ce qu'il est, oui. Mais il y a quand même une manière de le... Alors, il y a plusieurs manières de le définir. Bon, on peut considérer que ce qui va constituer en soi et par soi une fin, c'est ce qui sera susceptible d'être reconnu comme universel. C'est-à-dire, un peu à la manière conscienne, ce qui sera le résultat d'une action dont la maxime sera universalisable. Bon, c'est quelque chose d'un peu difficile que je n'ai pas du tout eu le temps d'aborder avec mes élèves. Ce qui pose problème dans cette perspective, c'est que finalement, on a l'impression que ne serait susceptible de faire en toute connaissance de cause le bien qu'une élite réfléchie... cultivé, ayant connaissance de l'impératif catégorique.
C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème que vous posez, de savoir que c'est une élite qui saurait ce qu'est le bien, qui serait seule dépositaire de cette science infinie, qui serait la science du bien, pour ensuite l'appliquer. Et puis le deuxième problème, c'est tous les cas de figure où, par exemple, j'imagine que tuer quelqu'un ne fait pas partie du bien, mais il y a toute une série d'arguments en faveur du fait que tel résistant pendant la guerre, par exemple, tuant quelqu'un, en un sens, peut considérer qu'il accomplit le bien, ce qui problématise la définition du bien, ce qui complexifie la définition du bien. Donc il y a deux difficultés qui viendraient avec cette représentation, j'ai envie de dire presque indiscutée, du bien, Isabelle Ledoux.
Disons que d'un point de vue général, on a tendance à confondre le bien tout simplement avec ce qui est l'utile. Chacun d'entre nous recherche son utile propre, comme dit Spinoza. Et donc, les hommes ont pris l'habitude communément de désigner par bien ce qu'ils considèrent majoritairement comme utile.
Oui, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que je la désire, c'est parce que je la désire qu'elle est bonne, dit Spinoza. Ce qui pose un problème quand on pense à l'héroïne, par exemple.
Comment ?
Ça pose un problème quand on pense à la drogue, par exemple.
Ah oui, absolument, bien sûr.
Si on applique cette phrase de Spinoza à la consommation d'héroïne, si on est dans une définition non réfléchie du bien ou de ce qui m'est utile, à ce moment-là, le problème devient aigu.
Oui, tout à fait. Mais il me semble qu'il y a quand même une manière de dépasser ce relativisme de la définition du bien, c'est de l'identifier au vrai. C'est-à-dire que Spinoza va affirmer que le bien réside dans la connaissance vraie des connexions causales, du déterminisme naturel qui agit sur moi, parce que la connaissance vraie, c'est ce qui va me permettre d'agir dans telle ou telle situation particulière, de manière à accroître ma puissance et à faire en sorte que j'interagisse avec les autres de telle sorte que je puisse leur permettre à eux aussi d'accroître leur puissance propre. Donc, c'est vrai que Spinoza a une position originale dans la mesure où il identifie ce qu'on appelle communément l'axe théorique et l'axe pratique de la philosophie. C'est assez inédit dans l'histoire de la philosophie, mais ça permet de sortir de toutes ces impasses, de toutes ces abories relatives à la définition du bien.
Oui, et il est celui qui ne réduit pas le bien à l'utile. Mais continuons dans cette dissertation, Isabelle Ledoux, avec vous. On est donc dans la première partie. Comment justifieriez-vous, au fond, à quelle conclusion vous conduirez les considérations qui sont celles de la première partie et qui justifieraient donc qu'on passe à la deuxième partie, dont, alors, deuxième question, enfin, question supplémentaire, subsidiaire, Gaëtan, je crois, c'est votre prénom, hein, tout à l'heure disait que il se construisait une antithèse assez vite. Enfin, il essayait d'envisager une antithèse. Est-ce que cette option, thèse-antithèse, vous semble recevable dans la construction d'une dissertation, Isabelle Ledoux ?
Disons que le plan académique thèse, antithèse, synthèse, il est valable à condition qu'on ne confonde pas la synthèse avec un tiède compromis, avec un tiède pis-aller entre la thèse et l'antithèse. Il faut que ça soit un dépassement des deux positions précédentes. Normalement, lorsqu'on construit une démarche personnelle, on n'a pas besoin de s'accrocher à ce plan académique.
Alors, donc, comment justifiez-vous le passage à une deuxième partie et à quoi sert-elle finalement ? D'où lui vient sa nécessité ? Quelles conclusions vous conduisent à en venir à une deuxième partie ?
Bien, il me semble que exercer sa volonté, ça suppose quand même de réfléchir sur l'éducation. De réfléchir aussi sur ce qui permet de se comprendre soi-même ainsi que sa propre nature. Bon, ceci dit, dans l'idée de vouloir le bien sans le faire, il y a aussi l'idée peut-être d'une lutte intestine, intérieure au sujet, qui renverrait soit à un conflit de la raison et de la volonté, soit peut-être à quelque chose comme un mal radical, en tout cas ce que Kant a appelé comme tel, c'est-à-dire la possibilité d'une liberté qui nous mettrait sans cesse ou qui serait toujours susceptible de nous mettre en contradiction avec nous-mêmes.
Alors il est ici très important de dire que par mal radical, vous ne désignez pas le mal absolu, mais la racine du mal.
Absolument.
Le mal à sa racine, c'est-à-dire la corruption d'une intention par des motifs qui, eux, seraient empiriquement déterminé. Au fond, une intention pure, on peut prendre un exemple simple d'ailleurs, hein, qui est un exemple en général dont on se sert en terminale, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous en servir, mais c'est l'exemple du commerçant qui rend la monnaie, vous allez faire vos courses et vous achetez 3 poireaux, 2 asperges, etc. Et puis, vous oubliez votre portefeuille et le commerçant, le lendemain, vous rend votre portefeuille. Et évidemment, il se pose alors la question de savoir pourquoi il l'a fait. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il sait que de la sorte, il va fidéliser le client, ce qui, d'une certaine manière, relèverait d'une forme de mal radical, ou en tout cas d'une détermination empirique du geste vertueux, ou bien est-ce qu'il le fait tout simplement parce que ce n'est pas le sien et que c'est votre portefeuille et qu'il vous le rend ? Est-ce qu'un tel exemple vous semble pertinent ici, Isabelle
Ledoux ?
Oui,
c'est un exemple tout à fait pertinent dans la mesure où il permet de clarifier cette distinction célèbre que fait Kant entre agir conformément à la loi morale ou agir par respect pour la loi morale. Bon, il est évident que s'il me rend mon porte-monnaie uniquement pour me fidéliser, l'action est intéressée, elle n'a rien de moral. Bon, elle n'a qu'une apparence de moralité. Maintenant, Kant fait du respect un sentiment tout à fait à part, puisqu'il n'est motivé que par la seule considération de la loi morale.
Est-ce que, c'est juste ma dernière question sur cette première partie, avant de demander leur avis aussi à vos élèves, et puis d'enchaîner sur la suite, que vaut, à vos yeux, l'argument selon lequel, peu importe qu'on le veuille ou non, l'essentiel est qu'on fasse le bien, et que mieux vaut un univers où les gens, pour se donner bonne conscience, parce qu'ils font le calcul de l'intérêt qu'ils peuvent y trouver, parce qu'ils spéculent sur le fait que du coup ils iront au paradis, que sais-je. Que vaut le monde dans lequel les individus font le bien de façon parfaitement intéressée ? Est-ce que ça n'est pas préférable à un monde dans lequel les gens s'abstiennent de faire le bien au nom de la pureté de leurs intentions, parce qu'ils considèrent que le bien qu'ils font est un bien mélangé, est un bien finalement qui usurperait son titre de bien ? Vaut-il mieux faire le bien ou bien vouloir le bien sans le faire ?
Kant lui-même dit très clairement dans l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, par exemple, qu'on ne peut pas être certain que dans toute l'histoire de l'humanité, une seule action véritablement morale ait jamais été accomplie. Bon, il est parfaitement honnête, hein, il sait très bien qu'on ne peut pas remonter à l'infini la série des causes qui nous déterminent. Il affirme que la liberté n'est qu'un postulat, est un postulat de la raison pratique, ce qui est bien une manière de dire qu'on ne peut pas en démontrer la réalité. C'est pour ça que Bon, effectivement, mieux vaut le bien même intéressé, ce qui est utile et ce qui est profitable, même si c'est motivé de manière un peu intéressée, un peu calculée, qu'une abstention qui finalement serait plate, serait morose, serait froide.
Et confortable, en un sens. Oui. Adèle.
Oui, vous aviez commencé les uns et les autres en analysant le sujet, en insistant sur la notion de bien. Et là, on a beaucoup insisté sur la notion de vouloir le bien, ce qui change l'approche du thème même du bien. On a parlé de Dostoïevski, de Kant. Est-ce que là, ce que vous venez d'entendre, tout ce développement, cette première partie, quelle référence est-ce que ça vous inspire, référence à la fois philosophique ou littéraire, Gaëtan Prieur-Drevon?
Alors moi, comme ça, spontanément, il n'y a absolument rien qui me vient à l'esprit. Non, c'est-à-dire qu'en fait, quand moi je construis ma dissertation, on a vu tout à l'heure que je notais mes idées qui étaient surtout des préjugés, en fait. Je n'avais pas tellement le temps de construire des choses. Et en fait, en faisant mon introduction, c'est là que commence à naître ma problématique. Et je vais regarder tous mes arguments, s'ils sont valables ou pas. Et donc c'est pendant ce travail-là que je commence à rechercher dans ma tête tout mon bagage philosophique. Et à partir de ça, quand je vais arriver à la fin, moi je ne fais pas le plan, comme Madame Le Doigt dit, je ne fais pas de plan à la fin, je termine simplement par mes questions. Je pose souvent 2-3 questions très importantes, et ensuite je les nuance en montrant les problèmes que je vais devoir soulever lors de ma dissertation. Et donc dans ma première partie, je vais quand même garder mon plan de thèse, et en fonction de ça, je vais voir au final que je vais plus ou moins démonter les arguments que je m'étais fait au début de mon analyse en cherchant d'autres et en prouvant selon une démarche assez logique qu'en fait finalement c'est autre chose et finalement je n'ai pas forcément la même démarche c'est ce qu'on me reproche souvent, de conceptualisation tout de suite. Là on a vu tout de suite la nuance sur vouloir, toutes ces choses là et moi c'est plutôt quelque chose que j'analyse en seconde partie, donc c'est totalement différent par rapport à moi.
D'accord. Et Pauline Pontier, est-ce que vous viennent à l'esprit des références, soit des philosophes que vous avez étudiés pendant l'année, soit des références, des exemples littéraires ou autres qui viendraient étayer la thèse qui était celle de la première partie?
Alors pour le vouloir, oui, on a vu Kant, le fondement de la métaphysique des mœurs, donc je me serais peut-être inspirée de ça. Sinon, pour le bien, on avait vu, on avait un peu parlé de Spinoza avec le souverain bien.
Et à partir de ces deux auteurs, est-ce que vous auriez produit la même réflexion que celle que
pas du tout. Le
doux? D'accord. En quoi est-ce pas que ça aurait tout. Été un peu différent?
Moi, je serais surtout partie sur ce que j'ai dit en introduction mm-hmm. sur le bien. Je pense que je me serais trompée, ou en tout cas j'aurais pas réussi à avoir une réflexion aussi grande, je me serais focalisée
aussi
sur
large.
Voilà, aussi large, je me serais focalisée sur surtout le bien, ma définition du bien ce qu'on a dit au début, agir, je peux mal agir en pensant bien agir.
En pensant bien faire. Ouais.
Voilà. Et moi, je me serais surtout focalisée là-dessus.
Et Diane Buzéa?
Alors, moi, quand j'avais lu ce sujet, je pensais tout de suite au Juste de Camus. Mm-hmm. Parce que en voulant assassiner, je ne sais plus quel personnage, je crois que c'était un grand-duc ou le tsar, peu importe. Il voulait finalement faire le bien et délivrer le peuple russe. Et donc, je pense que ça reliait très bien.
C'est l'exemple dont vous parliez au tout début, quand vous avez dit ce sujet me fait penser à un exemple. Vous pensiez déjà au Juste de Camus ou...
Oui, aussi, sinon à d'autres exemples, mais de la vie courante. Et surtout, ce qui me fait peur aussi, quand je vous ai écouté, là, vu que... tout ça pendant quelques minutes, c'est où s'arrêter. Parce que à chaque fois, on creuse, et à chaque fois, on trouve des choses nouvelles et intéressantes, et on ne sait plus est-ce que c'est nécessaire de le mentionner ou pas, parce que...
De faire le tri entre voilà. tout ce qui vous vient à l'esprit.
I was dreaming of the past.
Isabelle Ledoux est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi. Isabelle Ledoux qui enseigne la philosophie en terminale au lycée Saint-Just de Lyon, où nous nous trouvons ce jeudi également dans la salle théâtre, magnifique salle théâtre. Peut-on vouloir le bien sans le faire? C'est la question du jour. Alors pourquoi cette chanson de John Lennon? Eh bien tout simplement parce que c'est la chanson d'un homme qui fait le mal sans le vouloir, en l'occurrence. Donc il ne s'agit pas de vouloir le bien sans le faire, ici c'est de faire le mal quoi qu'on veuille, le bien justement notamment de la personne qu'on aime. On est arrivé, Isabelle Ledoux, tout à l'heure au terme de la première partie. Quelle hypothèse mettez-vous en évidence donc dans la deuxième partie et qui justifierait ultimement d'ailleurs qu'on résolve des contradictions?
Il me semble que vouloir le bien sans le faire, c'est ne pas se comprendre soi-même, c'est ne pas saisir sa propre nature, c'est être la proie de l'imagination. Imaginer, qu'est-ce que c'est? C'est croire naïvement que les rapports spontanés que j'ai avec moi-même, avec le monde, avec les autres, reflètent fidèlement leur être propre, reflètent fidèlement leur essence. C'est-à-dire ne pas faire la part de la subjectivité qui interfère dans ma saisie du monde, dans ma saisie des choses, dans ma saisie de mes interactions avec les autres.
Et que par conséquent, quand je veux du bien à quelqu'un, il se peut que je lui fasse du mal, précisément parce que je le fais aux dépens de ce qu'il est.
L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on.
Dit-on. Et on a bien raison de le dire d'ailleurs. Et quels exemples justement prendriez-vous à l'appui de cette thèse qui peut être étayée à la fois par des exemples ordinaires, littéraires, philosophiques?
Je n'ai pas forcément pensé à un exemple précis, mais il me semble qu'en termes d'éducation, bien des parents fort bien intentionnés échouent à réaliser, à produire le bien, c'est-à-dire à fournir à leurs enfants les conditions favorables à un épanouissement maximal de leur puissance propre, à une affirmation de leur essence singulière, soit qu'ils soient trop laxistes, soit au contraire qu'ils soient trop exigeants et trop sévères. Bon, ce que je dis relève du lieu commun, mais il me semble que c'est un terrain, en tout cas, où c'est quelque chose qui se vérifie assez fréquemment. Freud a dit qu'il y avait trois métiers impossibles, non celui d'éducateur. Bon, on sait très bien qu'être parent est très difficile.
Mais justement, Isabelle Ledoux, est-ce que cette difficulté n'implique pas de la part du candidat, du bachelier, et à cet instant de la dissertation, tout simplement de détruire presque, de déconstruire en tout cas, la possibilité même de définir le bien, c'est-à-dire de considérer finalement que toute définition du bien est une définition abusive, dans la mesure où définir le bien, et là pour le coup on pourrait se servir de Spinoza, définir le bien, hein, c'est dans l'appendice de la première partie de l'éthique, il explique ça très bien. Définir le bien, c'est hypostasier, c'est-à-dire donner une valeur absolue à ce qui n'est que bon pour moi. Et est-ce qu'en somme, définir le bien ou se donner une certaine idée du bien, ça n'est pas prendre en un sens ses désirs pour des réalités, à la façon d'ailleurs dont les parents les mieux intentionnés du monde disent à leurs enfants « tu feras l'ENA, mon fils », et de ce point de vue, évidemment, le dissuade de le faire.
Oui, mais c'est la faille de toutes les morales communes, effectivement. Et dans l'appendice au livre 1 de l'éthique, Spinoza la relève fort bien. Maintenant, ça ne signifie pas que le bien est indéfinissable, est impossible à définir en termes absolus. Puisque dire du bien que c'est la connaissance vraie, c'est quand même affirmer que connaître les connexions causales qui régissent les choses, qui me déterminent, qui déterminent mes interactions avec les autres, c'est être en plus grande mesure, je ne dis pas en mesure absolue, d'agir adéquatement. Et ça, c'est quand même une forme de bien qui, me semble, n'est pas simplement relative.
Mais dans le même temps, Isabelle Ledoux, il n'est pas nécessaire, vous le savez comme moi, d'avoir lu la critique de la raison pratique pour tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Il n'est pas nécessaire de connaître la Bible pour cacher des juifs pendant la guerre. Il n'est pas nécessaire d'avoir une représentation formulable, précise, un concept de bien pour bien agir. À quoi correspond, selon vous, comment comprenez-vous finalement ce décalage, peut-être, j'allais dire, cette inutilité de la connaissance? Le simple fait que certaines personnes soient en mesure de définir exactement ce qu'est le bien tout en agissant de la façon la plus vile ou la plus basse qui soit, alors que d'autres personnes en seraient parfaitement incapables mais ont un comportement qui relève de la plus haute morale, est-ce que cette objection-là ne permet pas de dissocier finalement la connaissance du bien du bien agir?
C'est, oui, absolument. Ça permet de la dissocier, d'autant que finalement, le bien agir, c'est une question d'expérience. Une expérience pratique. Une expérience qui se transmet, qui est vécue dans un entourage ou qui peut même être transmise par certains textes religieux. Spinoza souligne lui-même que finalement, la vérité de la Bible, c'est la justice et la charité, c'est-à-dire une forme de foi pratique qui est pré-philosophique, qui suppose une sorte de pensée ensemble ou de pensée en commun, qui est pré-philosophique mais tout à fait valable. Donc effectivement, on peut bien agir sans nécessairement être... comment dirais-je, à la pointe de la philosophie morale.
Si le bon comportement ou si le bien agir était réservé à ceux qui sont à la pointe de la philosophie morale, d'ailleurs, il y aurait beaucoup de forbans qui agiraient bien, et puis il y aurait surtout très peu de monde qui agirait bien. Oui. Isabelle Ledoux, on est dans la deuxième partie. Vous avez choisi de faire du bien, donc une sorte d'idéal de l'imagination, finalement, dans le cadre d'une critique de la perspective ouverte par la première partie. À quelle conclusion vous conduit cette analyse ?
Eh bien, il me semble que finalement, ce qui est déterminant, c'est peut-être ce que Kant appellerait une volonté bonne. C'est-à-dire, il y a peut-être une différence entre vouloir le bien et le vouloir de tout son cœur. C'est-à-dire que finalement, bien agir, c'est peut-être moins cerner le concept de bien comme tel qu'être en accord avec soi-même. C'est-à-dire... On peut peut-être distinguer d'un côté une morale du devoir qui va me dire « tu dois » et me proposer une définition un peu formelle du bien, et puis d'un autre côté une perspective éthique qui me permettra peut-être de faire le bien par désir. Non pas par devoir, mais par désir. Et ça signifiera que ma sensibilité sera complètement en adéquation avec mon entendement. Et que le concept de bien que j'aurai élaboré soit très sophistiqué ou pas, finalement, ce qui compte, c'est peut-être cette adéquation de soi à soi qui permet d'agir en harmonie.
Ce qui veut dire que rien ne remplace, et dans une dissertation d'ailleurs, et dans la vie, le spectacle d'un exemple ou bien le bel exemple d'une vie, et que c'est finalement plus convaincant. La figure de Gandhi fait davantage pour la paix que le projet de paix perpétuel d'Emmanuel Kant, dont vous faites grand cas, comme moi d'ailleurs, mais allez-y.
Oui, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais il est évident que la vertu de l'exemple frappe l'imagination, est une incitation à la réflexion.
Si le bien est un idéal de l'imagination, pourquoi ne pas faire valoir du coup des exemples plus que des textes ?
Parce que agir, ça ne s'improvise pas. Et il me semble que quand même, il y a dans l'idée de vouloir, c'est-à-dire de mettre en œuvre ses forces vers un but, quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion sur l'action. Alors c'est bien joli de mettre en avant des exemples, mais est-ce qu'ils vont être suffisants lorsqu'il s'agira de prendre une décision donnée, lorsqu'il s'agira de prendre une décision appropriée ? Il me semble qu'il est nécessaire aussi que cette décision soit précédée d'une réflexion.
Il y a un problème que pour l'heure on n'a pas abordé dans cette dissertation, c'est l'enjeu politique de la question. C'est-à-dire, pour un homme politique, pour un homme d'État par exemple, un homme d'État c'est beaucoup dire, disons un Premier ministre, quelqu'un qui occupe cette fonction-là, un politique peut considérer qu'il veut le bien et se voir lui-même dans l'incapacité de le faire. On peut prendre un exemple tout simple. Il n'est pas bien, en vertu de quelle que soit la définition qu'on adopte du bien d'ailleurs, il n'est pas bien de pactiser ou de commercer avec la Chine. Ça n'est pas bien. C'est moralement indéfendable, c'est un État totalitaire, il y a des prisonniers de conscience, ça n'est pas un État de droit, et pourtant, il n'est pas bien de commercer avec la Birmanie. Enfin, c'est mal, disons, pour le dire simplement. Et pourtant, quand on est un homme politique, il serait irresponsable, dans la mesure où des emplois en dépendent, des familles en dépendent, des vies, des développements industriels en dépendent, il serait en un sens irresponsable de ne pas faire ce qui par ailleurs n'est pas bien. Qu'est-ce qui, alors, dans la pratique politique, que vaut les considérations que nous élaborons dans le silence respectueux d'une salle de classe et d'une conversation théorique sur la question du bien, selon vous, Isabelle Ledoux? Et dans quelle mesure est-ce qu'un tel exemple trouve sa place dans une dissertation comme celle-là?
Il me semble que sur le plan politique, il est quand même important de distinguer le niveau interétatique du niveau international. Parce que à l'intérieur d'un même État, on peut considérer que les individus sont soudés ou en tout cas liés par une sorte de contrat, une sorte d'intérêt commun. Bon, qui ne les engage peut-être pas de manière inaliénable, mais auxquels ils adhèrent. Alors que les uns à l'égard des autres, les États sont quand même dans une situation qui est... bon, ils sont définis par leur souveraineté, c'est-à-dire qui est assez similaire à ce que Rousseau a pu appeler État de nature. Hein. Donc, il me semble que si gouverner, c'est prévoir, alors... prendre ses responsabilités, c'est peut-être à chercher à produire le moindre mal. Hein. Ça serait déjà pas mal. En général, dans la situation que vous évoquez, qui me fait penser d'ailleurs à celle des Justes de Camus, on est dans un dilemme. Le propre du dilemme, c'est quelle que soit la solution que, enfin, la décision que je prends, elle n'est pas satisfaisante ou elle n'est pas pleinement satisfaisante. Il faut évaluer les séries causales en présence et essayer d'opter pour celle qui causera le moindre mal, me semble-t-il.
Alors, il faut ici aussi renvoyer l'étudiant, un élève qui, enfin, l'élève, le lycéen, le bachelier, l'étudiant, à un texte qu'il peut parfaitement lire, qui est le Savant et le Politique de Max Weber, et la différence qu'il fait entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, où se joue le destin du politique. Isabelle Ledoux, restons sur cette question, la question qui nous occupe, hein, peut-on vouloir le bien sans le faire? Comment concluriez-vous votre deuxième partie? Comment justifiez-vous l'enchaînement avec la suite?
Eh bien. Pour tout vous dire, vous avez complètement bouleversé le plan que j'avais proposé. Donc, il me semble que...
Vous êtes dans la situation d'un élève qui se retrouve à la fin de sa deuxième partie, à qui il reste une heure pour écrire sa troisième partie. Il faut se débrouiller avec ça.
Il me semble que... Mais il me semble que je suis en train de sécher exactement comme un élève. Peut-être auriez-vous une suggestion à me faire?
Peut-être qu'on peut demander justement aux élèves eux-mêmes.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît très important sur ce sujet qui n'a pas encore été abordé? Pauline Pontier, vous n'étiez pas d'accord tout à fait avec la thèse, avec la façon, avec le plan. Est-ce que il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous paraît très important dans ce sujet et dont on n'a pas encore parlé? Ou quelque chose qu'on a évoqué mais sur laquelle on n'aurait pas assez insisté? Décidément, tout le monde sèche. Est-ce que le développement que vous venez d'entendre vous fait penser à d'autres choses auxquelles vous n'aviez pas pensé initialement et vous fait entrevoir un aspect du sujet? Je pense que ça ouvre beaucoup de perspectives sur le sujet. On a abordé la dimension morale, la dimension politique. Comment est-ce que ça fait évoluer vos intuitions premières, par exemple, Gaëtan Prieur-Drevon, puisque vous vous accordez tellement d'importance aux intuitions premières?
Oui, alors moi, mon intuition première, c'était au début la question du peut-on. Alors, ensuite, on a un petit peu étudié le sujet, mais là, on est vraiment dans quelque chose d'immatériel. Et moi, la première chose qui m'était venue à l'esprit, c'était l'aspect de liberté avec le peut-on. Et donc, moi, il me semble qu'on n'a pas énormément abordé cette question, qu'on a énormément conceptualisé tout ce qui est vouloir, le bien, en quoi consistait le faire. On a vu que c'était toute cette histoire de relativité. Mais pour moi, il y a peut-être la notion de liberté qu'il faudrait aborder.
Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous diriez sur la notion de liberté?
Alors, sur la notion de liberté, on n'a pas fait grand-chose, je crois, encore en cours là-dessus. Mais.
Je crois, oui.
Voilà. Donc. Moi, comme j'ai dit, c'est plutôt une proposition de définition à la fin. En fin de troisième partie, je définirais finalement la liberté par rapport à la définition que j'aurais fixée en introduction, parce que j'en aurais parlé dans mon introduction. Ouais. Et donc, pour moi, ce serait une démarche logique qui tendrait à montrer que finalement, cette définition de liberté dans vouloir ou faire le bien, et ben finalement est nuancée. Et donc là, je trouverais des arguments. Je ne sais pas quoi vous dire là pour l'instant. Je l'aurais fait au bout de 3h30 de réflexion, donc...
Mais est-ce que vous avez une idée de ce à quoi vous allez aboutir? Quelle est cette nouvelle définition de la liberté?
Justement, je n'ai aucune idée.
D'accord, donc vous avez la méthode en tout cas.
Voilà, oui. Je suis une méthode et au final, j'arrive avec quelque chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas
Donc vous vous surprenez vous-même.
Je me surprends moi-même, tout à fait.
Mais c'est magnifique. Peut-on vouloir le bien sans le faire? C'est quand même le sujet. Il faut quand même qu'on arrive dans ces cas-là, hein, au terme de la dissertation. On a vu dans la première partie ce que signifiait le fait de vouloir le bien et dans quelle mesure, en deuxième partie, le bien pouvait être un idéal de l'imagination. Isabelle Ledoux, une fois qu'on a posé que le bien était un idéal de l'imagination, comment est-ce qu'on surmonte un tel obstacle, hein? Comment est-ce qu'on répond justement à cette hypothèse? Comment est-ce qu'on construit une issue à l'impasse que constitue la déconstruction du bien comme idéal de l'imagination?
Peut-être en prenant conscience de la véritable nature de sa liberté. J'ai été un peu déconcertée tout à l'heure, mais finalement, tant qu'on conçoit le bien comme idéal de l'imagination, on est dans une conception de la liberté qui est celle du libre arbitre. Or, cette conception... selon laquelle, alors cartésienne, selon laquelle on aurait d'un côté la raison qui propose et l'entendement qui dispose et selon laquelle la volonté représenterait une telle puissance qu'elle me permettrait de vaincre n'importe quelle passion et éventuellement même de me retourner contre ma propre raison pour la simple satisfaction d'affirmer la plénitude de ma liberté, son caractère infini. Bon, cette conception a été férocement et très justement critiquée par Spinoza, qui l'a qualifiée de... Il a dit à son sujet qu'elle revenait à concevoir le sujet comme un empire dans un empire. Bon, en réalité, l'homme est une partie de la nature, il n'est pas soustrait à l'action des lois naturelles, et la liberté ne consiste pas dans une indépendance rêvée à l'égard de la nécessité. À partir du moment où je comprends qu'être libre consiste non pas à se soustraire au déterminisme naturel, mais à saisir l'enchaînement, enfin les connexions causales qui agissent sur moi et qui me déterminent. Hein. Dans la lettre 58 à Schuller, qui est une lettre célèbre, Spinoza, critiquant la conception commune de la liberté, dit « toute la liberté des hommes consiste en cela seul, qu'ils sont conscients de leurs désirs et inconscients des causes qui les déterminent. » C'est-à-dire des causes qui les déterminent à avoir tel désir plutôt que tel autre.
Se prendre pour l'origine de ses actes, c'est ignorer les causes réelles, un, qui nous font agir, deux, qui nous font croire qu'on est l'origine de nos actes.
Voilà,
justement.
C'est rapporter la volonté à un principe qui n'est pas le sien.
Mais est-ce qu'en même temps, Isabelle Ledoux, quand on agit conformément à une représentation du bien, on n'est pas soi-même explicitement, clairement? Et d'ailleurs, Descartes envisage cette hypothèse assez paradoxale avec Dieu, dont de temps en temps il dit qu'il a une puissance absolue et de temps en temps il dit qu'il est soumis à une certaine représentation du bien. Est-ce que quand on agit conformément à une certaine idée du bien, est-ce qu'on ne se reconnaît pas en soi-même justement une liberté, j'allais dire une parfaite liberté, c'est l'expression de Leibniz, une façon d'être libre à la façon dont c'est la fameuse phrase de MacMahon qui dit « Vous voterez pour les candidats que je recommande à vos libres suffrages » puisqu'on est en période électorale, on pourrait citer ça. En somme, on agit conformément à l'idée du bien. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette idée d'agir conformément à l'idée du bien une façon de reconnaître une certaine forme de nécessité à notre action?
En tout cas, une nécessité rationnelle. Hein. Il me semble que le lien qu'il peut y avoir entre les deux, c'est entre la conception spinoziste de la liberté et celle-ci, c'est qu'à partir du moment où je comprends les causes qui me déterminent, je suis en mesure d'agir plus rationnellement, plus raisonnablement. Je suis en mesure d'agir en connaissance de cause. Je suis en mesure de diminuer le pouvoir de l'imagination sur moi, de corriger la perception fausse que j'ai de l'objet, de lui rendre ses justes proportions. Et à ce moment-là, mon pouvoir d'agir et de réagir est plus grand.
Dans la quatrième partie de l'éthique, Spinoza cite un moment un vers d'Ovide et il dit, un vers fameux d'ailleurs, hein, je vois le bien et je l'approuve, et pourtant, c'est le mal que je fais. Mmh. On est dans la quatrième partie de l'éthique, qui pour mémoire est une partie qui s'occupe de l'esclavage, oui, des servitudes humaines. Esclavage de l'homme à l'endroit de lui-même, comment l'homme est esclave de lui-même, c'est-à-dire de ses passions, et de quelle façon il peut s'en affranchir éventuellement, puisque la cinquième partie, elle concerne la liberté. Il cite donc ce vers d'Ovide, « Je vois le bien, je l'approuve, et pourtant c'est le mal que je fais. » Est-ce qu'au fond, la question que nous nous posons depuis le début, la difficile question qui est posée aux élèves le jour du bac, hein, « Peut-on vouloir le bien sans le faire ?» ne tient pas dans ce vers d'Ovide et dans le mystère qui voudrait que je vois, j'approuve le bien, et pourtant je fasse le mal.
Il n'y a pas de mystère à ça, c'est simplement que j'ai besoin de prendre conscience des passions qui m'affectent. Si je vois le bien que je l'approuve et que pourtant je fais le mal, c'est tout simplement que je suis déterminée par une passion plus forte que celle qui me porterait à faire ce que je considère comme bien. D'ailleurs, la fin de la lettre 58 à Schuller se termine à peu près sur le même constat. Des hommes en proie à des passions contraires voient le meilleur et l'approuvent et pourtant font le contraire de ce qu'ils avaient décidé. Bon, un ivrogne croit dire par une décision libre ce qu'ensuite il aurait voulu taire, etc. Donc il n'y a strictement nul choix là-dedans. Il y a simplement un conflit de passion, un conflit d'affect, et c'est la plus forte qui va l'emporter.
Alors
tout.
Justement, puisqu'on arrive à la réponse, au terme de la dissertation, comment répondre à cela finalement? Est-ce que la réponse à la question qu'on pose depuis le début, peut-on vouloir le bien sans le faire, ne réside pas dans l'art, le talent de donner à ses passions suffisamment de force, ou à certaines d'entre elles suffisamment de force pour, donner à la connaissance que l'on a du bien suffisamment de force pour déterminer nos actions?
Disons que si je commence à me faire une idée adéquate de ce qui me détermine, je cesse d'être sous le régime de la passion. Je transforme à partir du moment où j'ai une idée adéquate de la passion qui me détermine, cette passion se transforme en action.
Mais madame, je peux avoir une idée adéquate du mal que me fait la cigarette et pourtant continuer de fumer.
Oui, mais dans ce cas-là, je ne pourrais pas me leurrer en prétendant avoir choisi librement de continuer de fumer. J'admettrai que je suis déterminée par une passion plus forte qu'une autre. Enfin, c'est tout. Déjà, je suis hors de l'illusion, ce qui est un progrès.
Comment concluriez-vous, Isabelle Ledoux, puisqu'on arrive au terme de cette émission?
Je conclurai en disant qu'on ne peut vraiment vouloir que ce qu'on conçoit adéquatement. Et que finalement, à partir du moment où je veux le bien au sens fort, je commence à le produire au moins en moi. Dans la mesure où je me soustrais au régime de l'imagination, je me soustrais au régime de la passion. Avant de prétendre le faire à l'extérieur de moi, peut-être que... la sortie hors de l'illusion de la passion, la sortie hors de l'illusion du libre-arbitre me permet de commencer de le réaliser en moi. C'est peut-être là le point de départ d'un processus de libération, d'un processus d'accroissement de ma puissance, susceptible de se poursuivre indéfiniment.
You let other people make a fool of you. Why don't you do right like some other men do?
Get out. Un grand merci à vous, merci à tous d'abord, et merci Isabelle Ledoux. Je rappelle que vous enseignez la philosophie en terminale au lycée Saint-Just de Lyon, et vos élèves ont bien de la chance. Lycée Saint-Just, dont je remercie également le proviseur, M. Renaud Clayet, pour la qualité de son accueil. Je rappelle que la question du jour était « Peut-on vouloir le bien sans le faire ?» et je vous renvoie chaleureusement, chers auditeurs, à notre site internet, où vous trouverez tous les plans détaillés, toutes les bibliographies de la semaine, ainsi que la possibilité, et oui, de télécharger chacune de nos émissions. Merci également à Clara Fornet et Bruno Cossé du Conseil Régional qui nous ont soutenus pour ces 4 enregistrements à Lyon et à Vaux-en-Velin. Voilà, on se retrouve demain de 10h à 11h, comme tous les jours, pour la fin de cette semaine sur le Bac Philo. Une semaine qu'on finira à Marseille en compagnie de Marc Rosmini qui enseigne en terminale au lycée Marseille Vert. Et qui se demandera, encore une question difficile, dans quelle mesure on peut dire d'un désir qu'il est anormal. Gageons qu'on parlera encore de Spinoza. À demain donc, France Culture, il est 10h59, et dans un instant, question d'époque.